Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. En quelques jours, ce qui est devenu l'affaire Benalla est passé du statut de fait divers à celui d'affaire d'État. Comment qualifier autrement cet épisode qui a conduit l'Assemblée nationale à bousculer son agenda en reportant la réforme des institutions, qui a provoqué la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaires dans chacune des chambres avec une rapidité peu coutumière, qui amène le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à répondre ce matin aux questions des députés pendant plus de 2 heures, mais aussi le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, et bientôt le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, un très proche du président de la République, qui doit être auditionné jeudi prochain au Sénat. Les révélations du journal Le Monde, jeudi dernier, sur la participation d'Alexandre Benalla à une opération de maintien de l'ordre le 1er mai 2018, opération au cours de laquelle il a été filmé en train d'interpeller 2 manifestants, posent aujourd'hui des questions qui dépassent largement le cadre simplement administratif, ou même celui d'une récupération médiatico-politique. Le rôle et l'attitude du chargé de mission et adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron, autant que les réponses apportées jusqu'à présent, amènent à s'interroger sur la séparation des pouvoirs ou encore le fonctionnement de l'état de droit. C'est en tout cas l'occasion pour des parlementaires moqués ces derniers temps comme simple chambre d'enregistrement du gouvernement d'affirmer leur rôle. Mais les parlementaires font-ils la loi? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
Un dysfonctionnement? Mais c'est bien plus grave que ça. Et si c'est inacceptable, pourquoi avons-nous retrouvé M. Benalla dans l'entourage du président de la République jusqu'à une date très proche?
J'ai donc réuni pendant une petite heure les présidents des groupes ou leurs représentants et nous sommes convenus, et je les laisserai bien sûr s'exprimer, que nous pouvions, compte tenu des contraintes de la session extraordinaire pendant laquelle nous siégeons, appliquer l'article 145 de notre règlement et ses différents alinéas. La commission des lois pourrait faire la demande d'être investie des mêmes prérogatives qu'une commission d'enquête parlementaire.
Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je vous rappelle que pour ce faire, la commission est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Je vais vous demander, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le ministre.
Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Voilà, en quelques extraits sonores, résumé ce qui a amené à cette commission d'enquête parlementaire pour discuter du sujet de ce soir. Nous sommes en duplex depuis les bureaux de France Bleu, Pays de Savoie, donc à Chambéry, avec Bernard Accoyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aujourd'hui maire délégué Les Républicains d'Annecy-le-Vieux. Vous avez longtemps été aussi le président, on s'en souvient, de l'Assemblée nationale. C'était de 2007 à 2012. Et votre connaissance fine du fonctionnement de l'Assemblée, vous nous êtes très utile ce soir, comme celle de Jean-Philippe Desrosiers, qui est professeur de droit public à l'Université de Lille 3, auteur du blog La Constitution décodée, qu'on attend encore en studio, mais on me dit dans le casque qu'il sera là d'ici 5 minutes. Et enfin, en studio avec nous également, Benjamin Hogue-Tabanou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche au Media Lab de Sciences Po et cofondateur du site La Fabrique de la Loi. Vous êtes aussi, je crois, un des animateurs et cofondateurs de l'association Regards Citoyens, qui est une association qui permet de suivre le travail de nos parlementaires, c'est ça?
Oui, tout à fait. En quelques mots, une association entièrement composée de bénévoles, entièrement citoyens et qui fournit notamment les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr qui sont probablement parmi nos initiatives les plus connues.
Alors Bernard, à quoi il faut dire à nos auditeurs qu'on avait prévu cette émission sur La Fabrique de la loi, mais que l'actualité nous a fait un petit peu réorienter l'émission. Et en même temps, ça nous permet de parler du rôle du Parlement, car c'est véritablement l'Assemblée nationale qui, comme institution, a été sur le devant de la scène ces derniers jours dans cette affaire Benalla, ce qui est devenu l'affaire Benalla, puisque la majorité souhaitait manifestement suivre la procédure habituelle pour constituer une commission d'enquête. Et le député socialiste Boris Vallaud a trouvé, dégoté dans le règlement, une disposition qui lui permettait de transformer la commission des lois en commission d'enquête, et ce qui a permis probablement une action plus rapide. C'est une procédure plutôt rare. Quel regard, vous qui êtes, donc je rappelle, ancien président de l'Assemblée nationale, quel regard vous portez sur cette constitution d'une commission d'enquête parlementaire à partir de la commission des lois?
Alors, d'abord, on est devant une affaire d'une extrême gravité en raison du domaine régalien qui a été manifestement traité de manière, malheureusement, il faut le dire, scandaleuse, en confiant à une personnalité sulfureuse des pouvoirs qui relèvent évidemment de la police, de la gendarmerie nationale, bref, de ceux qui détiennent la force publique pour faire respecter la loi. Donc l'affaire est effectivement très grave. Maintenant, ce qui n'a pas été dit, c'est que s'il y a une commission d'enquête, c'est parce que l'opposition l'a souhaité et que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, l'opposition bénéficie d'un droit de tirage pour obtenir de droit une commission d'enquête parlementaire sur le sujet que l'opposition a choisi. Et on est bien dans ce cadre, parce que si la majorité accepte que la commission des lois se transforme elle-même en commission d'enquête, c'est parce qu'il y a de la part de l'opposition cette demande et que de toute façon cette demande aboutira parce que c'est désormais, depuis 2008, un droit de l'opposition qui n'existait pas auparavant. Et donc on voit bien tout l'intérêt qu'il y a pour le bon fonctionnement de la démocratie, pour le bon fonctionnement de nos institutions, que le Parlement dispose de ce droit d'obtenir une commission d'enquête. Or, ce dont il est question, ou plutôt ce dont il était question avant les événements actuels, c'était de parler des droits du Parlement. 23
lors de la réforme constitutionnelle, enfin la réforme des institutions 23 qui réformes était en discussion.
23 réformes constitutionnelles sont intervenues depuis 1958. Le président Macron en voudrait une 24e. Ce serait la première qui diminuerait les droits du Parlement. On en parlera certainement, mais on voit bien que aujourd'hui, avec ce que la Constitution actuelle réformée de 2008 permet, toucher aux droits du Parlement réduirait de manière tout à fait dramatique dans la grande démocratie que doit rester la France la possibilité de contrôler l'exécutif qui relève en la matière des droits fondamentaux du Parlement.
Alors, on va en effet revenir
sur la transformation.
Oui, je vous redonnerai la parole dans quelques instants, Bernard Accoyer. Je voulais quand même entendre Benjamin Hogg sur ce que vous venez, Tabanou, sur ce que vous venez de dire et notamment sur ce rôle du Parlement, puisque c'est vrai que c'est assez symbolique de voir que la loi qui était en discussion et qui a été reportée pour pouvoir donner du temps à cette commission d'enquête d'avoir lieu, c'est une loi de réforme des institutions. On va en reparler au cours de cette émission. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Parlement, là, s'est engouffré dans une brèche pour aussi réaffirmer son rôle, Benjamin Octabanou.
Oui, tout à fait. Cette affaire est tout à fait révélatrice de ce côté un peu paradoxal de l'équilibre des pouvoirs en France, où on a un Parlement qui est censé légiférer, ou du moins voter la loi et contrôler l'action du gouvernement, mais qui n'en a pas forcément toujours les moyens. On s'est quand même retrouvé avec des débats paralysés à l'Assemblée pendant 3 jours, où on n'avait absolument que des rappels au règlement et des suspensions de séance en boucle. Tout ça juste pour s'assurer que le gouvernement puisse enfin venir répondre aux questions des députés. Ce qu'il a fini par faire uniquement dans le cadre de la commission d'enquête, le gouvernement n'a jamais répondu à la demande des députés qui demandaient à ce qu'ils viennent dans l'hémicycle répondre directement en face à leurs questions. Et le gouvernement n'a jamais pris cette mesure, et tout simplement parce que le Parlement n'en a pas le pouvoir. Il ne peut pas faire cette demande autrement qu'en sortant l'arme atomique, qui serait la motion de censure, et qui a été proposée, je crois, par le président du groupe France Insoumise, mais qui n'a pas été suivie par d'autres groupes, et qui du fait que, du coup, le Parlement ne peut pas se saisir de cette demande d'imposer au gouvernement de venir s'expliquer devant lui.
Alors que Jean-Philippe Desrosiers vient de rentrer dans le studio, donc je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université de Lille 3, auteur donc de ce blog La Constitution décodée. On a commencé un petit peu, en votre absence évidemment, à débroussailler le sujet de ce soir, Jean-Philippe Desrosiers. On a une première intervention de Bernard Accoyer qui rappelait, la gravité de ce qui s'est passé avec évidemment cette affaire Benalla dont on parle beaucoup cette temps-ci, mais aussi le rôle de l'Assemblée nationale, permise par une réforme constitutionnelle de 2008 qui a donné lieu à cette à la possibilité d'avoir une enquête parlementaire. Et en même temps, on a l'impression que là, l'opposition s'est aussi un petit peu engouffrée dans les interstices, puisqu'on a vu que c'était le député de l'opposition, Boris Vallaud, qui est allé rechercher dans le règlement la possibilité de transformer la commission des lois en commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que ça... comment dire ? D'abord, on voit bien que c'est plutôt rare, et surtout, quel effet ça peut avoir le fait que ce ne soit pas une commission ad hoc, on va dire, mais plutôt la commission des lois transformée en commission d'enquête parlementaire ?
Oh, ça a pour effet d'assurer, d'une part, une immédiateté de la riposte. Parce que s'il fallait constituer une commission d'enquête, déjà en session extraordinaire, ça n'aurait pas été possible. Donc il aurait fallu attendre la rentrée.
Oui, parce que les travaux parlementaires auraient dû prendre fin juin. Et là, on est dans une session extraordinaire.
Extraordinaire, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler. Jusqu'à tout le mois de juillet, on est en session extraordinaire. Au mois de septembre, on sera encore en session extraordinaire. Et l'ordre du jour en session extraordinaire est fixé d'abord par le président de la République qui convoque la session sur un ordre du jour déterminé et ensuite par le gouvernement. Et donc ce n'est qu'à partir du mois d'octobre que l'on aurait pu examiner cette proposition de résolution pour une commission d'enquête. Donc déjà l'immédiateté de la réponse de l'Assemblée nationale. Et ensuite, ça a pour conséquence également que la présidente de cette commission d'enquête, qui n'est pas une commission d'enquête mais bien la commission des lois, eh bien c'est celle qui préside habituellement la commission des lois, à savoir Yaël Braun-Pivet. Au-delà de cela, il n'y a pas véritablement d'autres conséquences, si ce n'est peut-être une dernière, qui est que ne sont membres effectivement de cette commission que les membres de la commission des lois. Mais comme ces travaux sont ouverts, tous les députés peuvent venir y siéger, mais ils ne peuvent pas prendre la parole aussi librement que le peuvent les membres de la commission des lois. Mais on a pu voir ce matin, lors de l'audition de Gérard Collomb, et cet après-midi lors de l'audition de Michel Delpuech, que la présidente donne la parole également à des députés qui ne sont pas membres de la commission des lois dans le respect du pluralisme et de ce contrôle fait par le Parlement dans son ensemble.
Bernard Accoyer, on vient de le dire, c'est donc une commission qui est dirigée par Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente habituelle de la commission des lois, mais qui est co-dirigée aussi par un député de l'opposition, en l'occurrence c'est le député Les Républicains Guillaume Larrivé. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous paraît satisfaisant et qui permettra d'arriver? Quel est le pouvoir finalement de cette commission? Est-ce qu'elle va permettre d'arriver à une meilleure connaissance des événements? Parce qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas de juger évidemment de ce qui s'est passé, ça c'est le rôle de la justice. Quel va être son rôle exactement?
Le rapporteur a un rôle important dans une commission d'enquête.
Et donc c'est Guillaume Larrivé.
Depuis la réforme de 2008, les commissions d'enquête sont généralement présidées par un parlementaire de l'opposition et le rapporteur est un rapporteur de la majorité. Or, le rapporteur a quand même un pouvoir important. Néanmoins, la convocation des personnes qui vont être auditionnées, des personnalités qui seront auditionnées, va dépendre de la majorité de cette commission qui est détenue naturellement à la proportionnelle par la majorité elle-même. Donc je pense que c'est une commission qui va être très importante, qui, je l'espère, pourra auditionner tous ceux qui doivent l'être. Il y aura la question institutionnelle, probablement, qui est déjà agitée par certains parlementaires, de la convocation du président de la République, qui, selon l'esprit des institutions, est responsable devant le peuple, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale ou le Parlement, et par conséquent, pourra, avec une certaine légitimité, refuser de venir si d'aventure la majorité, ce qui est absolument invraisemblable, décidait de le convoquer. En tout état de cause, je le redis, le fait que la réforme de 2008 ait donné à l'opposition un droit de tirage pour disposer d'enquête parlementaire, de commission d'enquête parlementaire sur un ordre du jour choisi par l'opposition, a changé et a donné des droits réels nouveaux au Parlement pour contrôler l'action de l'exécutif. On le voit bien en l'espèce. Or, et je le répète, la réforme voulue par le président Macron est une réforme qui, de manière pas seulement anecdotique, touche ou toucherait à des droits du Parlement. Encore une fois, ça apparaît aujourd'hui comme quelque chose de fort dangereux pour le bon fonctionnement de nos institutions et je dirais même de la démocratie.
Ne vous inquiétez pas Bernard Accoyer, on aura l'occasion évidemment de parler un peu plus longuement de cette réforme actuelle et de comprendre comment évidemment elle pourrait transformer ce rôle du Parlement, puisque c'est bien de ça qu'on parle ce soir dans, du grain à moudre d'été. Mais je voulais vous entendre Jean-Philippe Derosier sur ce qui vient d'être dit, notamment sur en effet l'idée de pouvoir convoquer le Président de la République devant l'Assemblée nationale. Selon le constitutionnaliste Dominique Rousseau, rien ne s'oppose à ce que l'Assemblée nationale ne convoque le Président. Est-ce que vous partagez son sentiment ?
Rien sauf la Constitution elle-même. Donc non, je ne partage pas son sentiment. Je pense que, en dépit de toute l'amitié et de tout le respect que j'ai envers mon collègue Dominique Rousseau, il se trompe. Il y a trois articles de la Constitution qui l'interdisent. D'abord, l'article 16 de la Déclaration de 1789 sur le principe de séparation des pouvoirs, qui est généralement invoqué pour marquer la séparation entre l'Élysée, la présidence de la République et le Parlement, notamment l'Assemblée nationale. À soi seul, ça ne suffit pas parce que la séparation des pouvoirs implique justement le contrôle d'un pouvoir sur un autre et le Parlement peut tout à fait contrôler la maison Élysée et la présidence de la République. À cela s'ajoute toutefois l'article 67 alinéa 1er qui pose le principe d'irresponsabilité du président de la République. Le président de la République n'est responsable que dans deux cas prévus par la Constitution, l'article 53-2, c'est la Cour pénale internationale, et l'article 68, c'est l'histoire de la procédure de destitution, pardon, et il est également responsable devant le peuple, comme l'a rappelé à l'instant Bernard Accoyer. Et enfin, troisième article, l'article 18 de la Constitution, qui limite strictement les cas dans lesquels le président peut intervenir au Parlement, soit par voie de message, comme c'est le cas depuis 1873, soit en convoquant le Congrès, comme il l'a fait maintenant il y a une quinzaine de jours, sans pour l'instant même que l'on puisse débattre de son intervention pendant sa présence. Donc il me paraît tout à fait exclu, constitutionnellement parlant, que le président de la République puisse être convoqué par la commission d'enquête, que ce soit celle de l'Assemblée nationale, où effectivement la majorité, le fait majoritaire fera que vraisemblablement il ne le sera pas, ou celle du Sénat, parce que la commission des lois du Sénat s'est également dotée des pouvoirs d'enquête pas plus tard que ce matin. La majorité n'est pas la République en marche, mais les Républicains, et elle pourrait être tentée de le faire. Mais je ne pense pas que la sagesse du Sénat fera qu'il s'engouffrera dans cette brèche.
Alors déjà, le Sénat a annoncé qu'il allait entendre Alexis Kohler, un des très proches du président de la République, qui est le secrétaire général de l'Élysée. On voit que ça se rapproche du président de la République, mais que ça n'ira probablement pas jusque-là. Vous venez de le rappeler, Jean-Philippe Derosier. C'est intéressant, Benjamin Hogue-Tabanou, cette question de qui va être auditionné ou non. Il faut rappeler que la majorité, les députés de la majorité, voulait des auditions à huis clos. On a des auditions publiques et il faut rappeler aussi que l'une des prérogatives de cette commission d'enquête, c'est évidemment de choisir les personnes auditionnées, de pouvoir se faire communiquer des documents. On a vu tout à l'heure Guillaume Larrivé dire qu'il allait demander un certain nombre de documents et évidemment, la dernière des choses, c'est de produire un rapport, mais qui est un rapport non contraignant, qui aura probablement un poids politique, mais on ne sait pas quelles seront évidemment ses conséquences. Benjamin Hogue-Tabanou, sur ce pouvoir finalement de convocation, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette commission d'enquête ?
Bah, évidemment qu'un maximum de personnes concernées soient auditionnées. On a entendu parler effectivement de l'audition des personnes du cabinet de l'Élysée. Donc là, effectivement, la question se pose. Pour ce qui est du président de la République, effectivement, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Mais pour ce qui est des cabinets, ça semble tout à fait légitime. Et effectivement, il semble que pour l'instant, le Sénat se dirige vers des auditions un peu plus riches que l'Assemblée, dont le fait majoritaire, effectivement, impose un peu le cadre.
Et le Sénat a plus de temps. Assemblée, un mois seulement. Au Sénat, ils prennent les 6 mois à disposition.
Tout à fait. Et comme vous le disiez, le point qui a été critique lors des premiers débats de la commission des lois, c'est effectivement la transparence. Alors qu'on est dans une réforme un peu de l'Assemblée, voulue même par son président François de Rugy, qui a fait beaucoup d'efforts depuis le début de la législature pour plus de transparence de l'Assemblée, il était assez surréaliste d'entendre la présidente de la commission des lois souhaiter que ces auditions se fassent à huis clos.
L'argument étant de dire qu'il fallait que ce soit à huis clos parce qu'on a des réponses plus authentiques et plus des vraies réponses à la question, sachant qu'il faut rappeler que chacun est soumis, on l'a entendu dans le son qui commence, il doit jurer de répondre avec comment dire, de dire toute la vérité selon la
il témoigne sous serment.
Voilà, il témoigne sous serment. Donc bon, on espère que ce soit pareil à huis clos ou en public.
Mais en plus, à peine voit-on le succès entre guillemets de ces auditions, il est évident que ce serait sorti autrement si ça n'avait pas été à huis clos. Des informations, que ce soit par des députés, par des journalistes ou même par des collaborateurs, il est à peu près évident que la plupart des informations seraient sorties. Ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui sur ce genre d'audition, alors que les Français attendent des réponses tout autant que les parlementaires de faire cela à huis clos.
Bernard Accoyer, sur cette question justement d'une audition publique ou à huis clos, le Parlement est dans son rôle finalement en tenant cette audition publique ?
Oui, tout à fait. D'abord, lorsque je présidais l'Assemblée, j'ai souhaité que tous les travaux dans la commission soient ouverts à la presse et également ouverts à la retransmission audiovisuelle. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas garder en dehors de questions qui touchent à la défense et à la sécurité nationale, des débats confidentiels, surtout dans une affaire aussi polémique et aussi grave que constitue cette affaire. Donc oui, il est normal que ce soit des débats publics, et il est tout à fait surprenant que certains aient pu imaginer de conduire ces auditions à huis clos. Par définition, le Parlement doit être une maison ouverte pour ce qui est de ses travaux, de manière à ce que l'on connaisse les questions, les réponses, les tenants, les aboutissants, ceux qui peuvent intervenir pour obtenir telle ou telle orientation, telle ou telle réponse. Donc oui, c'est une exigence que ces commissions se tiennent avec une publicité totale de leurs débats.
Je voulais vous entendre aussi, Bernard, sur un autre point qui a été soulevé par Jean-Philippe de Rosier dans son intervention, qui est la question finalement de la séparation des pouvoirs. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a écrit à votre successeur, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, pour lui rappeler qu'il y avait plusieurs procédures judiciaires qui étaient en cours et que donc le rôle de l'Assemblée nationale n'est évidemment pas de juger les actes d'Alexandre Benalla, mais bien de s'interroger sur le rapport entre le pouvoir exécutif, entre l'Élysée et le gouvernement. Quel est le rôle de cette commission ?
Effectivement, c'est une situation récurrente quand il y a un dossier sensible, une affaire qui fait polémique pour des raisons politiques. Dès lors qu'il y a des faits qui donnent lieu à une action judiciaire, deux instructions ne peuvent pas être conduites de façon parallèle, en raison, bien sûr, de la séparation des pouvoirs. Donc l'instruction judiciaire va prospérer de son côté, et la commission d'enquête parlementaire, quant à elle, devra se cantonner à auditionner un certain nombre des acteurs et à fournir in fine un rapport qui sera un rapport qui ne pourra évidemment en aucun cas formuler une sorte de jugement. Il mettra en évidence des dysfonctionnements gravissimes que l'on a d'ores et déjà cerné, mais il ne pourra pas aller plus loin. Les conséquences pénales, s'il y en a, et il y en aura, je le pense, je le souhaite d'ailleurs, ne pourront être prononcées que par, bien entendu, le pouvoir judiciaire, puisque nous avons en France, et c'est le fondement de toute démocratie, et le professeur Jean-Philippe Bérosier le dirait mieux que moi, nous avons en France à respecter de façon très attentive la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours des manœuvres pour essayer d'éviter que le Parlement ne se saisisse d'une commission d'enquête dès lors que des personnalités proches de la majorité sont mises en cause. Et on est bien dans ce cas-là avec l'affaire Benalla.
Alors Jean-Philippe Desrosiers, cette commission ne porte pas, je l'ai dit, sur les faits filmés, mais là je vais citer, et ça reste assez flou, sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Ça laisse quand même beaucoup de marge aux députés. Quel est l'enjeu sur cette séparation ?
Ça reprend, me semble-t-il, l'intitulé d'une commission d'enquête qui avait été proposée par des parlementaires de l'opposition, mais qui n'avait pas été acceptée, justement. Effectivement, il y avait eu une volonté de faire la lumière sur, avant même que l'on connaisse l'affaire Benalla et l'implication d'un collaborateur de l'Élysée dans ces manifestations et les violences qui ont pu avoir lieu ce 1er mai, parce que ça avait été porté au savoir de tous, déjà une volonté de faire une action politique de contrôle sur cela. Alors je ne peux qu'aller dans le sens de ce que dit Bernard Accoyer, effectivement, et c'est même un principe posé par l'ordonnance de 1958 qui régit le fonctionnement et la création des commissions d'enquête. On ne peut pas créer une commission d'enquête sur des faits qui font l'objet d'une poursuite judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on crée une commission d'enquête, il faut la validation de la garde des Sceaux, et que là, pour que la commission des lois se dote de la commission d'enquête, il y a eu la même demande de validation de la garde des Sceaux. Depuis un certain nombre d'années, ce principe, cette règle, fait l'objet d'une interprétation un petit peu plus souple, notamment, Bernard Accoyer peut-être me corrigera, notamment depuis l'affaire Jérôme Cahuzac, où justement il y avait eu une procédure judiciaire et pénale engagée contre lui, mais que parallèlement, il y avait eu aussi une commission d'enquête qui avait été créée, mais disons qu'on avait essayé de séparer les deux en disant les faits pénaux répréhensibles, c'est compte à l'étranger, etc. La commission d'enquête ne porte pas là-dessus, elle porte sur ce que savait ou ne savait pas le pouvoir exécutif pendant une certaine période.
Je crois que ça remonte même un peu plus loin à quelques...
Alors c'est pas Bernard Accoyer, mais Benjamin Octavano qui vient d'intervenir.
Et je crois qu'en fait, généralement, l'astuce consiste justement dans la dénomination. Et là, on le voit d'ailleurs entre la dénomination de la commission d'enquête au Sénat ou à l'Assemblée, où la formule n'est pas la même et où du coup, la commission du Sénat se saisit de prérogatives beaucoup plus larges. Et typiquement, pendant l'affaire Cahuzac, il me semble que la dénomination était telle qu'on n'empiétait pas sur la justice, on enquêtait sur on ne citait pas M. Cahuzac, on citait les affaires qui avaient permis de mettre en doute la probité.
Sur ce sujet, Bernard Accoyer, parce que malgré tout, peut-être que la formulation est floue et large, mais les effets, on s'en rappelle dans l'affaire Cahuzac, sont eux bien réels et bien concrets.
Non mais le professeur Desrosiers a parfaitement décrit l'évolution. Pendant longtemps, il était absolument impossible d'obtenir la moindre commission d'enquête dès qu'il y avait une action judiciaire. Maintenant, en changeant le périmètre, la dénomination de la dite commission d'enquête parlementaire, il y a une commission d'enquête qui est créée. On voit bien qu'au fil du temps, les institutions de la Ve ont donné plus de pouvoir aux parlementaires pour évaluer et contrôler l'exécutif. Et c'est une excellente chose. Et ce qui se passe en ce moment en est l'illustration. Ça marquera d'ailleurs certainement cette évolution vers un pouvoir législatif qui dispose maintenant davantage d'espace pour explorer, évaluer, mesurer l'action de l'exécutif. On voit que c'est particulièrement indispensable.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Vous écoutez France Culture, il est 18h44 et c'est donc le grain à moudre d'été. On pose ce soir cette question. Les parlementaires font-ils la loi? On la pose à l'occasion, évidemment, du scandale, de l'affaire Benalla, dont les parlementaires ont eu ce matin à traiter dans le cadre d'une commission d'enquête qu'on essaye un petit peu de décortiquer avec Bernard Accoyer, qui était pendant 5 ans le président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012, aujourd'hui maire délégué LR d'Annecy Le Vieux, avec Benjamin Octavano, qui est chargé de recherche au Medialab de Sciences Po, et cofondateur de l'association Regards Citoyens, et avec le professeur Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit public à l'université de Lille 3 et auteur du blog La Constitution décodée. Alors Jean-Philippe Desrosiers, justement, je voulais vous entendre sur peut-être un point qui est moins un point de droit qu'un point de politique. On voit qu'il y a véritablement, avec cette séquence, d'une certaine façon, l'Assemblée nationale qui s'engouffre dans un vide qui avait été laissé par l'exécutif. L'exécutif ne s'exprimant pas sur l'affaire, on a vu l'Assemblée nationale se saisir de ce moment. Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, de rééquilibrage? On a beaucoup dit qu'il y avait un déséquilibre qui se créait de plus en plus et qui est craint dans la réforme constitutionnelle, enfin la réforme des institutions telle qu'elle était discutée depuis quelques semaines au Parlement. Est-ce que, selon vous, il y a une façon pour le Parlement de reprendre un petit peu la main, parfois un peu au corps défendant aussi de la majorité?
Je crois que les enjeux de la crise sont un tout petit peu différents. L'exécutif, comme vous l'avez justement souligné, est muet. Et il est muet depuis les révélations par vos confrères mercredi soir de ce qui s'est produit. Il est muet parce que le président de la République refuse de s'exprimer. Bon, ça c'est un peu à son image, c'est lui qui décide à quel moment il parlera. Je pense qu'il le fera à un moment donné, mais lui seul sait quand. Mais là où c'est un tout petit peu plus surprenant, c'est que le gouvernement lui-même reste muet. Et moi j'ai l'impression, pour clore sur ce premier point, qu'il y a une très mauvaise gestion de cette crise politique par le gouvernement qui d'abord a laissé une tribune justement à l'Assemblée nationale refusant d'interrompre l'examen du projet de loi constitutionnelle jusqu'à dimanche matin, mais étant incapable d'en reprendre la discussion parce que de jeudi après-midi à dimanche matin inclus, on n'a fait que des rappels au règlement.
Alors rappelez-nous justement, parce qu'on a déjà parlé, qu'est-ce que c'est qu'un rappel au règlement ?
Alors un rappel au règlement, c'est une façon pour les parlementaires de souligner un écart par rapport aux dispositions qui sont inscrites dans le règlement de l'Assemblée nationale ou du Sénat. On a la même chose au Sénat. Et ça se manifeste par soit, alors dans l'ancien temps, on soulevait les deux mains plutôt qu'une seule pour faire une demande de parole, et sinon on agite le règlement. Et la demande de rappel au règlement est de droit et prioritaire sur n'importe quelle prise de parole. Et ensuite, celui qui fait le rappel au règlement a 2 minutes pour faire son rappel. Mais il doit normalement indiquer quel article du règlement il invoque et ce à quoi se rapporte son rappel. Or, si au début il tentait de se rattacher à quelques dispositions du règlement qui, avec des rattachements un petit peu alambiqués, par la suite il n'y avait plus aucun rattachement officiel et on ne débattait que de l'affaire Benalla. Il était loisible au président de séance de dire ce n'est pas un rappel au règlement, on en revient à l'examen du projet de loi constitutionnel, ce qui n'a pas été fait. Donc, très mauvaise gestion de la crise de la part du gouvernement, me semble-t-il. Ensuite, l'Assemblée nationale s'est-elle engouffrée ? Évidemment, parce que dès qu'il y a un petit espace, l'opposition essaie de faire son travail. Je crois qu'on est quand même là face à une crise politique grave, dont on ne mesure pas encore forcément toute la gravité, parce qu'on ne connaît pas tout les faits, mais on a tout de même un collaborateur du président de la République, et pas n'importe lequel, un chef adjoint du cabinet, mais qui ne figure pas dans l'organigramme officiel, première interrogation, qui a commis des faits qui pourrait être pénalement répréhensible. Deuxième élément de gravité, qui n'a été sanctionné que par une mise à pied de 15 jours, ce qui veut dire qu'il n'a pas été immédiatement licencié. J'en connais qui ont été limogés pour des faits moins graves, par le dit président de la République. Et tout cela me porte à penser, et je pense que je ne suis pas le seul, qu'il a été protégé par le sommet suprême de sa hiérarchie, c'est-à-dire par le président de la République lui-même. Pour quelle raison ? Dans quelle mesure ? C'est là les véritables questions. Et donc l'opposition, évidemment, essaye d'attaquer Emmanuel Macron, qu'elle ne parvenait pas jusqu'à présent à attaquer, et donc à occuper cet espace-là, montrant, et je termine sur ce point-là, que le Parlement, un, a des pouvoirs, contrairement à ce que l'on veut laisser croire, et que, deuxièmement, il est essentiel, que donc il ne faut pas réduire ses pouvoirs. Et cela permet de faire le lien avec votre sujet et ce projet de loi constitutionnelle qui est débattu actuellement, qui tend à réduire précisément les pouvoirs du Parlement.
Benjamin Octabanou, je suis désolé, je vais vous piquer ce que vous me disiez hors antenne tout à l'heure. Vous rappeliez cette phrase du grand constitutionnaliste Guy Carcassonne qui rappelait « Le Parlement ne manque pas de pouvoir, il manque juste de députés pour exercer ses pouvoirs ». Avant de vous donner la parole, je voulais entendre Bernard Accoyer sur sa dimension plus politique, on va dire, de la question. On a beaucoup parlé de l'inexpérience politique, justement, des nouveaux élus La République En Marche quand ils sont arrivés. Ça valait pour la constitution de la loi, manifestement. Là aussi, ça vaut dans cette séquence, puisqu'on a le sentiment que les députés La République En Marche ont mis le doigt dans un engrenage qui pourrait bien aller beaucoup plus loin qu'il ne leur est permis de contrôler que ce qu'ils peuvent espérer, Bernard Accoyer.
Oui, l'affaire est d'une extrême gravité puisqu'elle touche au régalien, au cœur de ce que le président de la République lui-même est censé être le garant. La situation a été gérée de façon tout à fait calamiteuse par l'exécutif. Bon, le président ne parle pas, bon, on peut le comprendre. Mais le gouvernement a refusé d'envoyer ne serait-ce que le ministre des Relations avec le Parlement pour calmer l'Assemblée. Le président de séance, je ne sais pas si c'était un président de la majorité ou de l'opposition, mais en principe, le président de l'Assemblée peut à tout moment prendre lui-même le contrôle des débats et expliquer que les rappels au règlement n'étaient absolument plus du tout dans le cadre qui était vu. Donc, effectivement, on est dans une situation assez surprenante où d'abord l'embauche d'une personnalité sulfureuse qui acquiert des pouvoirs tout à fait surprenants, inimaginables, qui lie des liens avec des personnalités, on le verra certainement dans les enquêtes parlementaires en cours, avec des personnalités qui tiennent au contrôle de la sécurité publique, et ensuite une assemblée qui, à l'évidence, a géré de façon un peu rapide, la mise en place de la commission d'enquête, le déroulement de ses travaux. Là, on touche à la limite de l'inexpérience de l'exécutif et de l'inexpérience parlementaire des membres de la majorité. Donc, ce qui veut dire que tout ça n'est pas, me paraît guère sous contrôle actuellement, et on voit bien à la lumière des premières auditions, que ce soit celle du ministre de l'Intérieur ou bien du préfet de police, que c'est un petit peu le sauve qui peut.
Benjamin Octavanou, sur cet exercice finalement de transparence démocratique imposé peut-être un petit peu au corps défendant des députés de la majorité.
Moi surtout, je trouve que le fait que tout cela se passe en plein pendant la réforme constitutionnelle, et c'est symptomatique et c'est très révélateur, parce que ça montre à quel point ce projet de réforme est quand même pour beaucoup une fausse solution à un faux problème. On nous dit que le but c'est d'accélérer les débats législatifs, que il y a pas assez de débats, que les parlementaires n'avancent pas assez, que on discute de trop de textes en même temps.
Ça manque d'efficacité.
Ça manque d'efficacité. Bon, c'est les termes de la Startup Nation, j'imagine. mais du coup, là, on a justement typiquement la preuve que le problème, quand il y a des débats qui n'avancent pas ou qu'il y a de l'obstruction, c'est pas de réduire le nombre d'amendements qui va régler le problème. Si les députés, comme le disait Carcassonne, si les députés ont envie de se saisir de leur pouvoir et de bloquer effectivement un texte qui leur semble impossible à discuter s'ils se mettent d'accord les différents bancs de l'opposition, ils sont tout à fait capables de véritablement faire de l'obstruction et bloquer un texte. Et là, on en a une superbe illustration avec ce texte qui a été discuté pendant 24 séances, et on en est à 900 amendements sur 2400. Il y a eu 6 séances pendant lesquelles il n'y a pas un seul amendement qui a été discuté. Et on a la preuve qu'il est tout à fait possible pour les parlementaires d'essayer de bloquer le débat et de ralentir les débats. Ce qui est, il faut quand même bien le reconnaître aujourd'hui, l'un des derniers pouvoirs de l'opposition parlementaire, c'est de ralentir le débat dans l'espoir que la société civile en parallèle arrive à bloquer le gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne dans la Ve République. L'opposition parlementaire n'a quasiment que ce pouvoir. Et donc, du coup, ça illustre le fait que cette réforme qui visait à notamment réduire le pouvoir d'amendement, qui est quand même peut-être l'un des derniers pouvoirs législatifs du parlementaire, était probablement une très mauvaise solution. D'autant qu'on nous a beaucoup parlé de cette explosion du nombre d'amendements, du fait qu'il y aurait eu des dépôts en rafale, etc. On a quand même tendance à oublier un peu vite, je pense que M. Accoyer s'en rappelle très bien, son prédécesseur Jean-Louis Debré, qui avait empilé sur son bureau les 167 000 amendements qui avaient été déposés par l'opposition pendant la réforme de la privatisation de GDF. On n'en est pas là du tout. Là, depuis le début de la législature, on a eu 50 000 amendements, et c'est uniquement sur des petits... Enfin, parce qu'il y a eu plein de gros textes sur lesquels, effectivement, il y avait beaucoup de matière à amender.
Bernard Accoyer, oui, il y a quelque chose d'assez ironique dans cette situation. Oui, dites-moi.
Non, sur ce point, je voudrais dire que les pluies d'amendements peuvent être tout à fait contrôlées en utilisant le temps législatif programmé, qui mériterait d'être amélioré. C'est d'ailleurs une simple réforme. Il n'y a même pas besoin d'une réforme du règlement. Il suffirait d'une convention en conférence des présidents pour décider de l'utilisation dans le temps du temps législatif programmé, afin que le texte puisse être totalement examiné. Donc le problème de l'obstruction, si la présidence de la l'Assemblée, en accord avec le gouvernement, utilise tous les pouvoirs dont dispose la présidence et la conférence des présidents qui suit naturellement le président puisqu'il y a la majorité, on peut évidemment surmonter toute obstruction. Là, on est dans un cas particulier, c'est une réforme constitutionnelle et je crois que cette réforme est dangereuse. Encore une fois, je le disais, ce serait la première, après 23 révisions, qui réduirait les droits du Parlement et on voit bien aujourd'hui que ce serait une énormité. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin Ogdabanou. Le Parlement, ça veut dire qu'on parle. On s'exprime, et on s'exprime par le droit d'amendement, ça il l'a dit. Mais on s'exprime aussi en posant des questions. Or, désormais, et depuis 2008, le temps d'expression de l'opposition est supérieur au temps de la majorité dans les textes.
Je parlais bien du pouvoir législatif et non pas du pouvoir de contrôle, monsieur Accoyer.
Le pouvoir législatif a lui aussi été augmenté et il serait mis à mal par la réforme si elle aboutissait, puisque les groupes parlementaires peuvent maintenant déposer des propositions de loi dont ils choisissent l'objet et elles sont discutées, examinées en séance. Or, justement, sur ce temps de l'ordre du jour réservé à l'initiative parlementaire, le gouvernement voudrait pouvoir ponctionner du temps pour faire passer ces textes. L'inflation législative, elle est le fait du gouvernement. Elle n'est pas le fait du Parlement. Et donc, cette réforme, je m'excuse de le dire en ces termes, elle ne tient pas debout. J'ajouterais que sur un certain nombre de points, notamment ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature ou bien l'inscription à l'article 1 des questions environnementales, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les conséquences sur le fonctionnement de nos institutions par la suite. Donc, cette réforme ne me paraît pas sérieuse. C'était presque un propos de tribune lors de la campagne présidentielle et on voudrait aujourd'hui en modifier la Constitution. Donc, finalement, ce qui est en train de se passer pourrait bien aboutir à ce que la réforme des institutions place en partie au moins à la trappe. Et ce serait une bonne chose pour la République.
Jean-Philippe de Rosier, en effet, c'est une réforme qui va être reportée à l'automne. Il y a quand même une certaine ironie à voir cette affaire et donc la façon dont le Parlement s'est emparé de cette affaire, de voir que ça coïncide, puisque finalement la volonté du président de la République, outre la volonté d'efficacité, c'était de recentrer le Parlement sur son rôle de contrôle plus que son rôle de faiseur ou producteur de la loi.
Oui, effectivement, c'était l'une des dynamiques officielles qui animait le projet de révision constitutionnelle. Mais je nourris exactement les mêmes inquiétudes que Bernard Accoyer. Je suis à peu près certain, on ne peut pas m'appeler Madame Irma, mais je suis à peu près certain que ce projet de révision constitutionnelle, cette réforme, ne peut pas passer en l'état. Et même avec les quelques petites évolutions qui ont été votées par voie d'amendement, par les quelques, je crois qu'il y en a 24 ou 25 qui ont été adoptés depuis le début de la discussion, ça ne suffira pas à la faire passer. C'est la première révision constitutionnelle qui réduit les droits du Parlement. Le Parlement est celui qui vote la révision. Comment voulez-vous que le Parlement accepte de voir ainsi réduit ses propres droits? C'est tout bonnement impossible.
Il pouvait pas trouver de meilleure solution pour revaloriser le travail de contrôle qu'avec cette affaire Benalla, où ce matin, je crois qu'on a vu plus de députés en commission des lois qu'on a pu en voir dans l'hémicycle cet
après-midi. Il y avait même, Bernard Accoyer l'a rappelé, des députés qui ne faisaient pas partie de cette commission et qui ont même pu prendre la parole. Merci en tout cas à tous les trois. Bernard Accoyer, qui était d'ailleurs en direct, ça me permet de saluer les équipes de France Bleu Pays de Savoie. Vous étiez en duplex de Chambéry. Merci à vous Jean-Philippe de Rosier et Benjamin Ogdabanou ici en studio à Paris d'avoir discuté de cette question du pouvoir du Parlement. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission et la podcaster sur notre site franceculture.fr. Une émission préparée avec Laïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation ce soir, c'était Anne de Pelchin. À la prise de son, Pierrick Monsigny.